Si je devais me poser la question pourquoi je suis ici, j'essaierais de définir le rapport que j'entretiens avec les histoires de Sherlock Holmes. Et si j'avais à le définir, je dirais, en manière d'introduction, que j'entretiens un rapport quasi olfactif avec le texte de Sherlock Holmes. En effet, j'ai découvert les histoires de Sherlock Holmes, il y a bien longtemps, dans une chambre mansardée d'Eure-et-Loir, où mon père avait entreposé sur une étagère les premiers volumes de la collection en livres de poche. Hier soir, Lorik a rappelé le rôle capital de son grand-père pour la découverte de Sherlock Holmes. Et moi, c'était mon père qui s'était procuré ces éditions, ces couvertures, qui vous rappelleront peut-être des souvenirs, hein, celle des aventures de Sherlock Holmes dans la traduction de Bernard Tourville chez Lafon en 1956, reprise en livre de poche. Alors, au fil des années, ces volumes entreposés dans le grenier avaient pris la poussière et un peu d'humidité de la chambre où j'allais souvent me réfugier, de telle sorte que j'avais fini par associer la lecture des aventures à la perception de l'odeur caractéristique du papier, qui aujourd'hui encore subsiste. Si je refais l'opération, je ne vais pas la faire devant vous, mais l'odeur est exactement la même. Et je crois qu'il faudrait pouvoir faire un catalogue des parfums du papier des livres que nous aimons. Ces livres de poche des années 60, en effet, n'émettent pas du tout la même odeur que les livres anglais anciens, par exemple, dans ma collection des Stevenson de l'édition Tusitala, ou encore de mes Kipling en Macmillan, qui évoquent pour moi aussitôt des bed and breakfast anglais, ou bien des boutiques d'occasion dans le Kent, une campagne anglaise relevant du fameux tableau de Sir Lawrence Alma Tadema, 94 Degrees in the Shade, 1876, qui représente un petit garçon victorien, tout vêtu de blanc, allongé à la lisière d'un champ de blé, ayant posé son fil à papillon pour lire un livre colorié. Humant le papier des vieux livres, je m'aperçois donc qu'il engendre d'autres livres. Alors, une autre dimension de cette perception, sans doute naïvement matérielle, du texte holmésien, tenait aux couvertures souvent bariolées du livre de poche. Ainsi, il y avait pour moi un lien étroit entre la couleur jaune-orange des aventures de Sherlock Holmes et l'histoire intitulée La Ligue des Rouquins, comme si la couleur de la tignasse des rouquins en question, faisant partie de la diégèse, avait fait tache, j'ai presque envie de dire une deuxième tache, depuis les rues de Londres jusque sur la couverture. Une sorte de contamination, alors là je vais parler en universitaire et non plus en petit garçon, une sorte de contamination métaleptique du signifiant, un envahissement se matérialisant jusque dans l'enveloppe du livre. Ce phénomène était conforté par les 5 pépins d'orange, 5 orange pips, histoire terrifiante à mes yeux d'enfant, et peut-être encore aujourd'hui, par le fait qu'une enveloppe portant la marque postale de Pondichéry, Pondichéry Postmark, au lieu d'inclure une lettre, comme on pourrait s'y attendre, renfermait 5 petits pépins d'orange desséchés. Le dessinateur, le colonel Openshaw, s'exclame alors « KKK ». Et lorsque son neveu lui demande ce qu'il y a, il répond de manière dramatique « La mort ». Dans mon imagination d'enfant, que 5 pépins d'orange puissent signifier la mort avait de quoi terrifier, surtout lorsqu'ils étaient associés à la couverture orange du livre trouvé dans le grenier. Dans la nouvelle, on sait qu'à la mort de l'oncle, le père et le fils examinent attentivement le grenier fermé à clef, qu'ils y trouvent une boîte en cuivre dans laquelle sont inscrites les initiales KKK, avec en dessous l'inscription « Lettres, notes, reçues, livres de compte », renvoyant au papier détruit par le colonel Openshaw. Ce schéma, Doyle le tenait sans doute de Stevenson, dans L'île au trésor, Treasure Island, 1886, qui est donc assez contemporain de la première histoire de Sherlock Holmes, où le vieux loup de mer, Billy Bones, renferme ses secrets honteux dans une malle qu'il cache soigneusement dans sa chambre. Inutile de préciser que le roman de Stevenson était l'un des favoris de mon enfance. Je trouvais matière à terreur le fait que la remise solennelle par un aveugle d'un papier sur lequel est dessinée une tache noire, « black spot », puisse signifier la condamnation par une société secrète de celui qui le tient dans la paume de sa main. Je ne savais pas encore que les 5 pépins d'orange de Conan Doyle étaient une réécriture des premiers chapitres du roman de Stevenson. On en trouverait d'autres traces, Gilles l'a évoqué tout à l'heure, de la présence stevensonienne dans le texte de Doyle. J'en donnerai juste un exemple ou deux exemples. Je renvoie la nouvelle « Black Peter » dans Pierre le Noir, donc dans le retour de Sherlock Holmes, qui visiblement c'est l'histoire d'un harponneur, un baleinier, hein, qui je pense est inspiré de Stevenson. Et je signale aussi que dans la nouvelle intitulée « The Missing Three Quarter », il y a parmi les membres de l'équipe de rugby du collège de l'université, il y en a un qui s'appelle Stevenson. Je pense que c'est pas, c'est sans doute un hommage déguisé. Naïvement, sans doute, je croyais aussi que dans le monde réel, on pouvait effectivement recevoir une lettre pouvant renfermer 5 pépins d'orange signifiant la mort. Je n'en ai jamais reçu, je dois dire, de mon côté. Peut-être c'est votre cas, mais moi, je n'ai jamais reçu pour l'instant. Depuis les îles Samoa, où il s'était installé, Stevenson, dont je viens de parler, peu de temps après avoir reçu le volume des aventures de Sherlock Holmes, devait expliquer dans une lettre à Conan Doyle que, aux îles Samoa, les indigènes, je cite, « ignorent ce que signifie fabriquer une histoire ». Ainsi, pendant que Stevenson lisait à son intendant des îles Samoa, qui s'appelait Semele, l'histoire du pouce de l'ingénieur, « the engineer's foot thumb », la peur et la fébrilité se lisaient sur les traits et dans les yeux de son intendant indigène, qui pensait qu'un malheureux ingénieur anglais avait effectivement eu le pouce sectionné par un vilain allemand. C'est, je renvoie à une lettre de Stevenson à Doyle, du 5 avril 1893. La nouvelle, écrit-il, donc à l'auteur, à Doyle lui-même, a été, je cite, « narrée, racontée comme si c'était un morceau d'histoire réelle et factuelle. Jeune enfant, je percevais les histoires de Sherlock Holmes comme l'indigène Samoan. Dans mon enfance, comme dans une vie antérieure, j'ai été en quelque sorte Samoan. » J'arrive à ma première partie intitulée « Le filigrane ou la distinction, portrait du détective comme lecteur ». Alors, dans ce rapport quasi olfactif au papier, l'examen minutieux de la couverture, de la typographie et des caractères imprimés ne faisait en réalité que mimer de manière homologique le rapport matériel qu'entretient le détective de Conan Doyle avec les papiers qu'il reçoit et qui le définit comme lecteur de signes. Nombreuses sont les histoires, en effet, dont le point de départ n'est autre que cet examen. En d'autres termes, ma posture de lecteur enfantin mimait, sans vraiment le savoir, la position même du détective. Samoan, j'étais aussi détective. Et de même que Sherlock Holmes, au début du Signe des Quatre, 1890, évoque devant Watson sa monographie de la manière de distinguer les différentes sortes de cendres de tabac, à laquelle il fait également allusion dans le mystère du Val Boscombe, The Boscombe Valley Mystery. Il fait exactement la même allusion. Je commençais à inventorier différentes formes et parfums de papier. Celui du livre de poche étant distinct, je l'ai dit, du papier anglais. Et là encore, il faudrait pouvoir distinguer entre le cuir rouge et le papier Macmillan pour Kipling, qui est assez fin, le papier Heinemann pour l'édition Tusitala de Stevenson, assez épais et crémeux, le papier Longmans, Chatto & Windus, Cassel, Collins, Tauchnitz, etc. Certains de mes vieux Mercure de France sentent effectivement le tabac de l'Amsterdamer, il me semble, mais je peux me tromper. tel Borges, et là je voudrais citer Alberto Manguel, dont on regrette évidemment l'absence aujourd'hui, tel Borges, selon Manguel, dans son petit livre « Chez Borges », passant, je cite, les mains sur le dos des livres, comme s'il se repérait à tâtons sur la surface irrégulière d'une carte en relief, est capable d'identifier un ouvrage au seul contact de ses doigts, montrez-moi un vieux livre et, à l'aveugle, si je puis dire, je vous dirai chez qui il a été publié. Au début du signe des quatre, sign of four, Holmes examine l'enveloppe et la lettre que lui remet Miss Morstan, comme s'il reniflait justement des feuilles de tabac. Je donne la citation, je vais donner les citations en français, mais je ferai référence au texte anglais éventuellement. Affranchi à Londres, secteur sud-sud-ouest, 7 juillet. L'empreinte du pouce d'un homme dans le coin, probablement celle du facteur. Du papier de la meilleure qualité, des enveloppes à sixpence le paquet. Un homme qui a ses préférences en matière de papier à lettres. Pas d'adresse. Fumer tel tabac et utiliser tel papier est, il me semble, affaire de distinction. Par distinction, j'entends simplement repérage indiciel. De même que la cendre noire d'un trichinopoli n'a rien à voir, selon Sherlock Holmes, avec le duvet blanc d'un bird's eye, c'est toujours dans le signe des quatre, de même la qualité de la papeterie, selon que le papier est de médiocre, de bonne ou d'excellente qualité, qu'il porte un sceau ou non. Par sceau, je renvoie cette fois à l'histoire de la deuxième tache, the second stain. Distingue son émetteur dans sa personnalité, ses goûts, son appartenance sociale. Ainsi, la distinction opérée par Sherlock Holmes sera-t-elle confirmée par la rencontre de l'émetteur du papier en question dans le signe des quatre. Thaddeus Sholto apparaîtra comme une sorte de dandy, un protecteur des arts, vivant au milieu de ses tableaux, baignant dans l'odeur du tabac, le parfum balsamique du tabac oriental. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac, dit Sganarell en ouverture du Don Juan de Molière. Et il y a bien chez Thaddeus Sholto la définition distincte d'un art de vivre, sinon d'une philosophie. Son caractère efféminé, souvent noté par la critique, apparaît rétrospectivement dans l'utilisation de l'adjectif particular à propos de son papier à lettres. C'est ce qu'est dit Holmes dans le texte anglais que j'ai cité tout à l'heure. « Particular man in his stationery. Hein, »« Particular man. Hein. » d'une certaine manière, « Dis-moi quel tabac tu fumes, quel papier tu utilises et je te dirai qui tu es dans tes goûts, tes préférences, voire ta sexualité. » Un autre exemple de l'utilisation du tabac pour résoudre cette fois, le mystère se trouve dans la nouvelle « Le pince-nez en or »,« The Golden Pince-nez », dans laquelle le professeur Coram fume des cigarettes qui viennent droit d'Alexandrie, fabriquées chez Ionides d'Alexandrie. Et Holmes, on s'en souvient, trouve la solution en répandant, en fumant énormément de cigarettes devant une bibliothèque où il soupçonne que quelqu'un s'est caché. Et lorsqu'il revient quelques heures plus tard, il voit effectivement que les cendres du tabac déposées sur la moquette ont été balayées par le panneau de la bibliothèque qui s'est ouvert entre-temps. Je n'incite pas, je regrette beaucoup qu'Hélène fume beaucoup trop, je ne l'incite pas évidemment à pratiquer cette méthode, mais enfin, elle est très efficace chez Sherlock Holmes. Alors, il me semble que la scène princeps de la distinction opérée à partir du papier se trouve au début de Un scandale en Bohème, Scandal in Bohemia, qui est la première nouvelle des Adventures, donc. Holmes montre à Watson une lettre qu'il vient de recevoir, une feuille de papier rose à lettres épaisses, sans adresse ni signature. Watson se livre alors à un exercice de déduction à la manière de son ami. L'homme qui l'a écrit, je cite, était probablement assez aisé, remarquai-je en essayant d'imiter les méthodes de mon camarade. C'est Watson qui parle. Un tel papier coûte au moins une demi-couronne le paquet. Une demi-couronne le paquet. Half a crown, a packet. Il est particulièrement épais et solide. Holmes conseille à Watson de mettre la lettre devant la lumière. C'est alors qu'apparaissent, je cite, un grand E majuscule suivi d'un petit G, un P majuscule et un grand G suivi d'un petit T filigrane dans le papier. Woven into the texture of the paper, dit le texte anglais. Woven into the texture of the paper. Watson pense qu'il s'agit du nom du fabricant ou son monogramme. Holmes rétorque en expliquant que grand G avec T signifie Gesellschaft en allemand, compagnie. P signifie papier. Quant à EG, il renvoie à Egria, un pays de langue allemande en Bohême, non loin de Karlsbad. Célèbre, dit Holmes, pour être le lieu où Wallenstein trouva la mort, ainsi que pour ses nombreuses verreries et fabriques de papier. Le papier a donc été fabriqué en Bohême, reconnaît Watson, et l'homme qui a écrit la lettre, explique Holmes, en s'appuyant sur une analyse grammaticale imparable, est un Allemand. Seule la langue allemande, dit-il, est aussi discourtoise avec ses verbes. Une phrase que j'ai toujours beaucoup admirée. Lorsque l'émetteur de la lettre fait son entrée peu de temps après, il a déjà été identifié, malgré le masque et le faux nom qu'il porte, comme le roi de Bohême en personne. Alors là, il me semble que l'opération de distinction est déjà plus complexe que précédemment, que dans l'exemple que j'ai donné du signe des quatre tout à l'heure. On retrouve l'évaluation de la valeur marchande du papier, cette fois associée à l'adjectif « peculiar »,« peculiarly strong and stiff », qui pourrait là encore s'appliquer à du tabac. Mais cette fois, le papier, examiné correctement, s'avère être à lettres, papier à lettres, au sens, justement, où il renferme des lettres. L'opération consistant à l'examiner, en le mettant à la lumière, afin d'examiner son filigrane, est, me semble-t-il, directement dérivée du scarabée d'or d'Edgar Poe, The Gold Bug, histoire dans laquelle, on s'en souvient, c'est en rapprochant le vélin du feu que Legrand mettait à jour le cryptogramme qui va lui permettre de découvrir le trésor du capitaine Kidd. Ici, comme chez Poe, l'examen de la lettre à la lumière permet la découverte d'une indication, index, dit le texte de Poe, qui a valeur de distinction. Le papier n'a pas seulement une épaisseur, dénotant l'aisance matérielle du propriétaire, il a une texture. Il renferme des abréviations ou des signes en allemand qui renvoient l'origine de l'émetteur anonyme. La même opération s'opère au début de The Valley of Fear, hein, où on trouve exactement ce même geste de mettre le papier devant la lumière. Pour citer Giorgio Agamben dans Signatura Rerum à propos de Paracels, je cite, « La langue qui garde l'archive des ressemblances immatérielles est aussi l'écrin des signatures. » Comme chez Poe, les signes sont tissés dans la texture du papier, « woven into the texture of the paper ». Si elle ne constitue pas véritablement un cryptogramme, ces lettres en question, avec leurs majuscules et leurs minuscules, possèdent déjà une fonction cryptogrammatique. La texture équivaut ici à un texte et réciproquement. Je pourrais donner énormément d'exemples, je vais vous en donner simplement quatre. Holmes rajouterait qu'il en a une quinzaine à sa disposition, mais simplement quatre pour marquer dans le texte holmésien l'importance du papier comme texture. Premier exemple que je vous donnerai les quatre références assez brèves. Premier exemple qu'on pourrait trouver, c'est le papier buvard dans The Missing Three Quarter. Qui sont décrits comme des hiéroglyphes. C'est le buvard sur lequel le trois quarts qui a disparu a écrit un message que Holmes retourne évidemment pour voir le message en question. J'ai le texte ici, le texte de Doyle donne justement la première version inversée et la bonne version remise à l'endroit. Et donc le papier buvard est une sorte d'impression. Le texte l'utilise, dit « We will find some impression upon this blotting pad hein, ». Donc il y a véritablement une impression au sens d'imprimerie hein, du texte du télégramme que le jeune trois quarts de rugby a écrit hein, pour demander de l'aide. Hein. Le message dit « For God's sake, stand by us for God's sake hein. ». Donc, premier exemple. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le lecteur peut en faire lui-même l'expérience, hein, c'est-à-dire dans le texte lui-même, le lecteur est posé dans la position même de Holmes, retournant le papier buvard. Un deuxième exemple pourrait être tiré de The Golden Pince-Nez, donc le pince-nez en or, où cette fois apparaît l'image, le motif du palimpseste. C'est une nouvelle au début de laquelle Holmes, nous dit-on, travaille sur un vieux palimpseste. Avant même que la nouvelle commence, hein, il a travaillé sur depuis plusieurs heures, dit Watson. Hein, le temps est très mauvais les deux amis sont assis ensemble dans un silence total pendant tout l'après-midi et la soirée. Et Holmes dit Watson avec une loupe ultra puissante et a essayé de déchiffrer, deciphering the remains of the original inscription upon a palimpsest. Troisième exemple, c'est dans The Reigate Squires, dans les mémoires de Sherlock Holmes, où il y a également le déchiffrage d'un morceau de papier manquant. Là aussi, le texte permet de donner, hein, la première occurrence, c'est ce petit morceau de papier, un coin de papier, un coin de message qui est donné et reproduit dans le texte. Et quelques pages plus loin, quand on tourne le volume, on a la réponse, c'est-à-dire le message complet hein, qui est donné par Doyle, avec là aussi le déchiffrage des lettres qui montrent, selon Holmes, que ce sont en fait deux personnes distinctes qui ont écrit le même message, c'est-à-dire le père et le fils, les deux Cunningham, qui ont écrit chacun pour tromper l'adversaire, en quelque sorte, qui ont, par leur écriture, la main de leur écriture, ont trafiqué, en quelque sorte, cette note. Enfin, le dernier exemple que je pourrais donner de cette texture holmésienne, donc, en quelque sorte, se trouve au début de The Valley of Fear, hein, où, cette fois, Holmes déchiffre une inscription que personne n'a réussi à déchiffrer, inscrite sur la crosse d'un fusil. L'inscription, c'est P-E-N. Comme par hasard, c'est pen, au sens pen, justement, peut-être le stylo. Hein. Mais en réalité, pen renvoie, dit Holmes, à Pennsylvania Small Arm Company, ce qui montre que le propriétaire du fusil en question était américain. Mais le fait, tout simplement, que l'inscription soit P-E-N me semble également assez révélateur de cette texture des indices. Alors, dans une affaire d'identité, un case of identity, dans les aventures de Sherlock Holmes, Holmes étendra sa méthode à la machine à écrire de Mr. Windibank. Je cite, « C'est une chose curieuse, mais une machine à écrire a vraiment autant de personnalité qu'une écriture manuscrite. » On sait que tout le 19e siècle anglais va passer hein, de l'écriture manuscrite à la machine à écrire, Dracula étant, je crois, le premier roman à avoir été écrit à la machine à écrire, ce qui a provoqué évidemment une petite révolution technologique, mais il est significatif de voir que Holmes étend sa méthode à la machine à écrire. « À moins d'être tout à fait neuf, dit-il, il n'y en a pas deux qui écrivent exactement de la même façon. » Certaines lettres s'usent plus que d'autres et certaines sur un seul côté. Maintenant, vous remarquerez que sur cette note que vous m'avez envoyée, Monsieur Windibank, il y a à chaque fois une petite bavure au-dessus du E et un léger défaut dans la queue du R. Il y a 14 autres caractéristiques, mais celles-ci sont les plus évidentes. Alors, dans un scandale en Bohême, alors même que l'émetteur se masque derrière l'anonymat, l'examen minutieux de la lettre a déjà produit du sens. Le fait que le papier ne puisse pas être acheté à moins d'une demi-couronne le paquet suggère que l'émetteur a quelque chose à voir avec une couronne. D'ailleurs, les signifiants « couronne », « crown » ou « souverain », »,« sovereign », vont circuler à travers toute la nouvelle, comme lorsque Holmes promet au cocher un demi-souverain, « half a sovereign », s'il atteint l'église de Sainte Monica en 20 minutes. L'un des enjeux de la nouvelle est bien celui de la souveraineté symbolique du roi de Bohême, dont on peut se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une demi-couronne ou d'une demi-souveraineté face à cette Irène Adler, à propos de laquelle Holmes remarque à la fin de la nouvelle qu'elle n'est pas en effet du même niveau que le roi. Sans doute est-elle supérieure au roi. Face à l'aigle Adler, le roi fait pâle figure et son royaume pourrait bien être que d'opérette. De même, on note un décalage entre l'épaisseur, la force, la raideur du papier, qui connote plutôt la masculinité et la puissance, et la couleur du papier rose qui connoterait plutôt la féminité. N'y a-t-il pas une contradiction particulière, peculiar, entre cette affirmation bravache de la masculinité et la féminisation du papier, le masque derrière lequel se cache le roi à la manière d'un Dorian Gray? La matérialité du papier holmésien pourrait d'ores et déjà faire symptôme. Se masquer, c'est se trahir. Se cacher, c'est se révéler. Gommer sa signature, c'est peut-être signer. Au-delà de la première impression de terreur liée à la sortie des 5 pépins d'orange de l'enveloppe, l'univers holmésien apparaît, tout compte fait, assez rassurant si les lettres enfouies dans le papier peuvent en indiquer l'origine. Dans « Signature, événement, contexte », Jacques Derrida analyse ce qu'il appelle, je cite, « la force de rupture avec son contexte que possède, selon lui, le signe écrit ». Parce qu'il s'incruste comme marque qui reste, le signe écrit tend à gommer le contexte, je cite, « la présence du scripteur à ce qu'il écrit, tout l'environnement et l'horizon de son expérience, et surtout l'intention, le vouloir dire, qui animerait à un moment donné son inscription ». C'est bien ce que voudrait faire le roi de Bohême en masquant l'origine de son contexte, pour parler comme Derrida. Par cette lettre anonyme, écrite en anglais, mauvais anglais, on l'a vu, et par le masque qu'il porte. Le roi de Bohême est déridien sans le savoir. Holmes, lui, n'est pas déridien, sur ce point en tout cas. Pour lui, la marque qui reste renvoie au contexte de l'écriture par l'émetteur, en l'occurrence la ville d'Egria en Bohême. D'ailleurs, comme si le déchiffrage de la distinction faisait aussitôt venir le contexte du texte, voici, peu de temps après la lecture de cette lettre, l'émetteur lui-même qui se présente dans le salon de Baker Street. Sherlock Holmes se situerait plutôt dans un système relevant de la signatura rerum, une théorie des signatures selon Agamben, où les choses, y compris et surtout les papiers à lettres, portent la signature de l'émetteur. À défaut de signature, c'est le papier qui vaut comme tel, à l'image du vélin dans le Scarabée d'or, qui porte en manière de signature hiéroglyphique, hieroglyphical signature, terme d'ailleurs que Baudelaire dans sa traduction du Scarabée d'or ne reprend pas, il laisse complètement tomber le terme de hiéroglyphe, une tête de chevreau pour désigner le capitaine Kidd, Kidd signifiant chevreau en anglais. Commentant dans son livre l'essai de Carlo Ginzburg sur le paradigme indiciaire, chez Freud, Morelli et Holmes, Agamben a raison de dire que leurs méthodes doivent être placées, je cite, dans la perspective de la théorie des signatures. En d'autres termes, le monde holmésien est terrifiant par la portée potentiellement mortifère des signes émis, mais rassurant par la distinction des lettres inscrites dans le papier qui renvoient au contexte de leur émission. Essayez de masquer votre signature et d'écrire en anglais, c'est le grain du papier allemand qui signera à votre place. J'aborde ma deuxième partie, intitulée « Les dessins d'enfants ou l'infiltration, portrait du détective en scripteur ». L'enfant que j'étais ne pouvait que se retrouver dans les curieux dessins relevés par Mr. Hilton Cubitt dans Les Hommes dansants, The Dancing Man, dans The Return of Sherlock Holmes, et c'est cette nouvelle qui va m'occuper dans cette deuxième partie. Dessin dont le Dr. Watson dit à première vue que ce sont des, je cite, des hiéroglyphes absurdes, absurd hieroglyphics, ou bien encore un dessin d'enfant, a child's drawing, ou bien encore, selon le détective, un enfantillage, some childish prank, hein, je cite encore, une succession de dessins de petites silhouettes absurdes dansant sur le papier. Je pense que vous connaissez cette nouvelle, mais je vous montre donc ces dessins absurdes reçus par Mr. Hilton Cubitt. A number of absurd little figures dancing across the paper. Dancing across the paper. Comme dans un scandale en Bohème, et donc, je dirais, dans le Scarabée d'or, Holmes se saisit de la feuille au début de la nouvelle et la place sous la pleine lumière du soleil, ce qui a pour effet d'en révéler le contenu et de l'imprimer dans le texte. Cette petite énigme, this little conundrum, explique Holmes à Watson, est arrivée par le premier courrier et Mr. Hilton Cubitt suit par le train suivant. Il s'agit, convient-il, d'une œuvre curieuse, a curious production, qui confine au grotesque. Pourquoi, demande Holmes à Cubitt, y attacher une telle importance? Ah, si cela ne tenait qu'à lui, répond-il. Mais le problème vient du fait que ma femme, dit-il, est morte de peur. It is frightening her to death. Comme dans les cinq pépins d'orange, donc, l'effet produit par la lettre reçue est inversement proportionnel à la nature apparente du signe. Comment de simples pépins d'orange ou des dessins d'enfants qui ressemblent à une sorte de blague peuvent-ils provoquer un tel effroi chez les destinataires? Pour reprendre une analyse de Jean-Yves Tadi à propos de l'île au trésor, c'est bien l'hypostasie d'un détail, ici comme pour la distribution de la tache noire, qui fait des ravages dans la lecture et l'interprétation du message codé par celui ou celle qui le concerne. Dans le récit effectué par Mr. Cubitt, la réception d'une lettre un mois plus tôt venue de l'étranger, en l'occurrence d'Amérique, il a vu, dit-il, le timbre américain, est également décrite comme premier signe d'inquiétude, first signs of trouble, au sein d'une existence jusque-là paisible. Son épouse devient mortellement pâle et jette la lettre au feu. On notera ici que le feu ou la lumière du soleil est à la fois le moyen de détruire les lettres et aussi de les révéler. Comme dans les cinq pépins d'orange, en effet, l'un des messages énigmatiques sera laissé sur le socle du cadran solaire de la propriété. Holmes demande à Mr. Cubitt de lui apporter le plus d'échantillons possibles d'hommes dansants, soit des originaux, soit des copies, comme celles dessinées à la craie sur la porte en bois de la remise. Il va de soi que Mr. Cubitt ne pouvait apporter à Holmes que la porte en question, et il en a donc fait une copie, ce qui réjouit le détective. S'il avait apporté la porte elle-même, on serait dans un autre monde, celui, je crois, des voyages de Gulliver, où l'on, pour parler, on est obligé d'apporter le référent avec soi, ce qui est un peu gênant et surtout encombrant. Les inscriptions se succèdent jusqu'à ce que Holmes se penche sur ce que Watson appelle cette frise grotesque, puis se redresse le visage hagard d'anxiété. Il est temps d'agir, déclare-t-il, mais lorsque lui et Watson arrivent à la propriété, il est déjà trop tard. Cubitt est mort et sa femme a reçu une balle. La version officielle parle d'une dispute entre les deux. Elle a tiré sur son mari, puis a tiré sur elle-même. Lors de son enquête, Holmes réussira à prouver qu'une troisième balle a été tirée. C'est donc la preuve qu'une tierce personne se tenait dans la pièce. Bientôt, le détective affirme qu'il a tous les fils en main. Se servant des divers échantillons des hommes dansants, il rédige un message qu'il confie à un garçon d'écurie en le chargeant d'aller le remettre en main propre au destinataire, « to put it into the hands of the person to whom it was addressed », à savoir un certain Abe Slaney, ferme d'Elridge, East Ruston, Norfolk. Après, il n'y a plus, dit-il, qu'à attendre. J'attends un peu. La démonstration du détective s'effectue en deux temps. Le premier temps, ce que j'appellerais le temps de la théorie. Face à ses compositions singulières, Singular Productions, il explique à Watson et à l'inspecteur local qu'il est l'auteur d'une modeste monographie sur les écritures secrètes, dans laquelle il analyse 160 codes distincts, soit 20 sortes de plus que pour le tabac, où il avait répertorié, vous vous rappelez, 140 types de tabac. Or, sa vaste démonstration n'est qu'une reprise de celle effectuée par Legrand auprès de son ami dans The Gold Bug, dans le Scarabée d'or. Holmes invente la monographie dont il assure être l'auteur pour masquer le fait qu'il pastiche Legrand. Avec une mauvaise foi qui fait écho au rejet de Dupin par le détective au deuxième chapitre d'une étude en rouge, Holmes précise à Watson que ce code est totalement nouveau pour lui, dans les hommes dansants donc. Or on sait qu'il a lu Poe, comme le prouve la référence à une étude en rouge. Borges défendait l'idée que le nombre d'histoires à écrire dans le monde était limité et qu'écrire équivalait à réécrire, à reproduire ce que contient la bibliothèque. Je cite la bibliothèque de Babel, « Parler, c'est tomber dans la tautologie. La certitude que tout est écrit fait de nous des fantômes », écrit le narrateur. La même méthode que celle utilisée par Legrand, qui repose sur l'analyse de la fréquence des mêmes lettres par rapport aux fréquences connues dans la langue anglaise, produit ici les mêmes résultats. Les hommes dansants, the dancing men, sont les lettres d'un alphabet secret et leur décryptage a permis à Holmes de lire la signature d'Abe Slaney, le bandit le plus dangereux de Chicago. Le code est à l'évidence partagé entre l'émetteur et la destinataire, Elsie Cubitt, son ancienne fiancée d'origine américaine, que certains messages de Slaney menacent de mort. Deuxième temps, ce que j'appellerais le temps de la pratique ou de la pragmatique. Abe Slaney arrive, il est aussitôt menotté et arrêté. Il avoue avoir tiré sur le mari parce que ce dernier lui avait tiré dessus. Jamais, dit-il, il n'aurait voulu lui faire de mal. Il est venu en réponse à une lettre de Mrs. Cubitt qu'il a reçue et il ne comprend pas évidemment ce qui lui arrive. Comment Holmes a-t-il pu écrire ce message en utilisant un code secret qui était l'apanage des membres de son gang? Le détective répond en disant que, je cite, « ce qu'un homme est capable d'inventer, un autre est capable de le découvrir ». L'explication n'est autre qu'une paraphrase de Legrand chez Poe, dont je vous donne la citation en français. « Les circonstances et une certaine inclination d'esprit m'ont amené à prendre intérêt à ces sortes d'énigmes. Il est vraiment douteux que l'ingéniosité humaine puisse créer une énigme de ce genre dont l'ingéniosité humaine vienne à bout par une application suffisante. » C'est donc en écrivant à la place d'Elsie Cubitt que Holmes a réussi à faire tomber Slaney dans le piège. Le message en question était « Come here at once », viens ici tout de suite. Et ce simple message a suffi pour faire tomber le plus dangereux bandit de Chicago. Holmes innove ici par rapport à son modèle Legrand. Dans un premier temps, il se contente de décrypter. Dans un second, il agit en écrivant. À ces deux temps correspondent deux conceptions nouvelles, je crois, de la détection du grain du papier chez Holmes. Premier point, le grain du papier codé produit bien ici une forme d'épaisseur, mais qui n'a plus rien à voir cette fois avec l'épaisseur matérielle de la missive envoyée par le roi de Bohême dans un scandale en Bohême dont j'étais parti. Le filigrane dont il s'agit n'est plus lié au support de la lettre. Ce qui est « woven into the texture of the paper », dans la texture du papier, donc, c'est un intertexte, celui de Poe. Car de deux choses l'une, soit les gangsters de Chicago ont lu le Scarabée d'or et ont imité le chiffre « cipher » en question, soit Holmes a lu Edgar Poe, ce qu'on sait depuis une étude en rouge. Donc, il pastiche Legrand en reprenant le même code parmi 159 autres possibilités, ce qui donnerait, dans le cas contraire, une probabilité de coïncidence invraisemblable. La feuille de papier représentant les hommes dansants produit un feuilletage de texte de « productions », justement, dit le texte anglais. D'une part, en effet, l'écriture secrète de Poe dans la texture d'Olienne De l'autre, la référence encyclopédique à une monographie sur les écritures secrètes dont Holmes serait l'auteur. Déjà, un intertexte affleurait dans la référence précédente à la mort de Wallenstein dans Le Signe des Quatre, au début d'un scandale en Bohème, qui fait partie du troisième volet de la trilogie dramatique de Schiller, 1798-99, dont les premières mises en scène au Deutsches Nationaltheater de Weimar furent signées par Goethe lui-même. Holmes, qui connaît visiblement la littérature allemande, cite d'ailleurs quelques vers de Goethe à la fin du Signe des Quatre. On retrouve à plusieurs reprises dans le canon ce geste de Holmes allant puiser une référence dans les rayonnages de sa bibliothèque. Dans Les Cinq Pépins d'Orange, il va chercher la lettre K dans l'encyclopédie américaine pour trouver le Ku Klux Klan, donc KKK. Et à la fin du Signe des Quatre, il va puiser dans le premier volume d'une encyclopédie en cours de publication des références sur les îles Andaman et ses aborigènes. Ici, il se réfère à un ouvrage dont il est lui-même l'auteur, dont il serait lui-même l'auteur. Sa lecture des hiéroglyphes comme production débouche donc sur une conception de l'écriture qui rivaliserait avec celle de Poe. Le détective ne peut lire les hiéroglyphes que parce qu'il se conçoit foncièrement comme scripteur, auteur d'un livre dont il revendiquerait la signature, le problème étant que ce livre émanant d'un personnage de fiction, par définition, possède un statut logique assez contestable. Deuxième point, comme dans la nouvelle précédente, l'examen du grain du papier permet ici aussi d'identifier l'émetteur, mais ce n'est plus le même grain. C'est parce qu'il a lu Poe, et non simplement parce qu'il examine les bandelettes de papier à la lumière, que Holmes identifie Abe Slaney. Du même coup, il est en mesure de percer le secret du code, d'entrer dans la chaîne de correspondance, de copier les lettres codées, d'infiltrer le système de communication mis en place par l'émetteur et le destinataire. Comme à la fin Bruce Partington Plans, des plans de Bruce Partington, dans son dernier coup d'archet, où il retourne, on s'en souvient, le système de petites annonces en signalant dans le journal une annonce signée Pierrot, ce qui fait se déplacer l'espion Oberstein de Paris à Londres avec les plans du sous-marin perdu. Holmes s'insinue, s'infiltre dans la chaîne en se servant à son tour de l'écriture secrète pour piéger l'émetteur. Il le fera également dans une nouvelle intitulée The Red Circle, le cercle rouge. Je me suis toujours demandé d'ailleurs si Melville ne s'était pas inspiré de cette nouvelle pour son film. Holmes devient alors cette fois scripteur anonyme et masqué, introduit dans le code, et non plus seulement son décrypteur. Le feuilletage de la texture permet au détective de conclure son enquête par une autre de ses productions, entre guillemets. Cette fois, c'est le destinataire, dans son contexte américain, menaçant la ruralité tranquille de la campagne anglaise, et non plus l'émetteur, comme dans le cas du roi de Bohême, qui arrive peu après la réception du message. Au sein de la chaîne signifiante, le grain du papier, conçu comme feuilletage de texte, a pour implication un effacement de l'émetteur au profit d'une doublure qui le remplace, de même que l'original s'est dégradé en copie. On se trouve ici dans une conception de l'écriture relevant de ce que Derrida, dans le même article Signature, événement, contexte, appelle l'itérabilité. Je cite « Imaginons une écriture dont le code soit assez idiomatique pour n'avoir été instauré et connu comme chiffre secret que par deux « sujets ». Dira-t-on encore que, à la mort du destinataire, voire des deux partenaires, la marque laissée par l'un d'eux est toujours une écriture, point d'interrogation. Oui, dans la mesure où, réglée par un code, fût-il inconnu et non linguistique, elle est constituée dans son identité de marque par son itérabilité, en l'absence de tel ou tel, donc à la limite de tout sujet empiriquement déterminé. Cela implique qu'il n'y a pas de code qui soit structurellement secret. C'est exactement ce que dit Legrand dans Le Scarabée d'Or et ce que dit Holmes dans Les Hommes dansants. La possibilité de répéter et donc d'identifier les marques est impliqué dans tout code, fait de celui une grille communicable, transmissible, déchiffrable, itérable, c'est-à-dire répétable pour un tiers, pour tout usager possible en général. Si Holmes n'était pas déridien tout à l'heure, c'est peut-être parce que Derrida est en réalité holmésien. Sa conception du signe écrit comme marque qui reste, qui ne s'épuise pas dans le présent de son inscription, et qui peut donner lieu à une itération en l'absence et au-delà de la présence du sujet empiriquement déterminé, relève d'une assimilation de l'écriture à un code secret. Derrida dégage une conception de l'écriture selon laquelle l'émetteur ou le producteur est voué à disparaître autant que le destinataire, ce qui se matérialise dans le texte de Doyle par le fait qu'Elsie Cubitt, gravement blessée, est remplacée par un Holmes qui se féminise, symptôme d'une inversion opérée dans un scandale en Bohème dans laquelle il s'était fait piéger par Irène Adler. Car de même qu'Irène Adler s'était déguisée en jeune homme pour percer l'identité du détective, de même, Holmes se déguise en Elsie Cubitt pour piéger Abe Slaney par un message dont le potentiel performatif est évident, « Come here at once », et de fait, l'ancien amoureux est conduit, auquel on promet une jouissance immédiate, « Hic et nunc », réplique dardard. Je signale que on retrouve exactement la même expression dans The Noble Bachelor, un aristocrate célibataire, où le message est également « Come here at once ». Et là. Ce faisant, Holmes efface un double contexte. Celui d'Elsie Cubitt, qui ne peut pas écrire vu son état, puisqu'elle est blessée, et le sien propre, puisqu'il n'est pas Elsie Cubitt, c'est élémentaire. La masculinisation d'Irène Adler, confirmée et amplifiée par le portrait d'elle en dominatrice dans A Scandal in Belgravia, dans le Sherlock de la BBC, va de pair avec cette féminisation de Holmes dans Les Hommes dansants. En d'autres termes, effacer le contexte, c'est aussi pouvoir effacer le sexe de l'émetteur. J'arrive à ma conclusion, intitulée « La bibliothèque et la toile ». Alors, il me semble que l'examen minutieux du grain du papier holmésien permet de dégager deux positions de Holmes face au grain du papier, à la signature et à l'écriture, disons, en général. L'une relève de la théorie des signatures, au sens d'Agamben, et aurait pour cadre de prédilection la bibliothèque. Je regrette qu'on ne soit pas à la bibliothèque en ce moment, pour cette raison. Mais bon. D'une part, il renvoie à l'identification de l'émetteur dans toute sa distinction, son filigrane, son sceau distinctif, l'épaisseur matérielle et symbolique de son contexte. De l'autre, le texte conçu comme texture relève d'un autre grain du papier qui renvoie à l'épaisseur d'un intertexte. On l'a vu, soit à l'enflurement d'un palimpseste, dans le cas du scarabée d'or de Poe, soit à une archive de référence dans celui de la monographie de Holmes sur les écritures secrètes, les deux dimensions se recoupant dans le fait que Holmes ne fait qu'imiter le grand, qui lui aussi se définit comme spécialiste de la question. La signature parcourt ces productions, entre guillemets, que sont l'œuvre réelle de Poe, d'un côté, et celle de Holmes, fictive, au sens où c'est la fiction de Doyle qui produit la référence. Il va de soi que Poe, Edgar Allan Poe et Sherlock Holmes ne font pas partie du même monde ontologique, on pourrait dire du même monde narratif, au sens où l'entend Umberto Eco, et que ce que Eco appelle l'accessibilité réciproque entre les deux scripteurs est difficile, pour ne pas dire impossible, à concevoir. Je renvoie également à l'article de Searle, The Logical Status of Fictional Discourse, où il justement évoque le monde de Sherlock Holmes comme étant un monde fictif et non pas un monde réel auquel on pourrait accéder. La bibliothèque apparaît comme le cadre privilégié du décryptage des signatures. Les œuvres de Poe peuvent trôner sur les rayonnages du salon de Baker Street, au même titre que de nombreuses encyclopédies ou livres de référence, le guide Bradshaw des chemins de fer, ou bien les oiseaux anglais, Catulle et la guerre sainte, que Holmes, déguisé en vieux libraire ambulant, conseille à Watson d'acheter, ne serait-ce que pour combler un espace vide sur la deuxième étagère du salon de Baker Street. Dans cette nouvelle, donc intitulée La Maison Vide, The Empty House, il me semble que c'est la bibliothèque vide, en réalité, dont il est question. Et de même que la nature en a horreur, Holmes, libraire, doublé d'un bibliophile, se hâte de vouloir la combler. On pourrait presque inclure, je dis bien presque inclure, sur ces rayonnages les œuvres complètes de Holmes, auteur de nombreuses monographies. Je en donne quelques exemples. Sur les diverses cendres de tabac, sur les écritures secrètes, on l'a vu, sur l'apiculture, sur la datation des manuscrits anciens, c'est dans Le Chien des Baskerville, au début du deuxième chapitre, sur les palimpsestes de la seconde moitié du XVe siècle, c'est dans Le Pince-nez en or, sur les anciennes chartes anglaises, c'est dans les The Three Students. Holmes, chartiste en quelque sorte, il faudrait rajouter sur les motets polyphoniques de Lassu, qui, selon Watson, a fait depuis l'objet d'une édition à compte d'auteur et que les experts estiment être la référence en la matière, etc. On pourrait presque les inclure si elles relevaient toutes du même monde narratif et possible que Goethe, Poe ou Catulle. Dans cette bibliothèque, même un aveugle comme Borges, Gordon Pym, aveugle au fond de sa cale, ou un enfant humant le papier pourrait s'y repérer. L'autre conception nous intéresse peut-être plus à l'orée de ce colloque. Elle tente en effet à faire de Holmes une sorte de hacker avant la lettre, ou après la lettre, si je puis dire, dans un monde, le nôtre, où la lettre tend à disparaître, celui qui est capable non seulement de percer les codes d'entrée ou d'accès, les firewalls les plus sophistiqués, afin de s'infiltrer dans les logiciels, de pirater les codes ou de les retourner à son profit. Au lieu de l'écriture comme signature, l'écriture comme code qui effacerait, selon Derrida, l'origine de l'émetteur. Écrire, je le cite encore, c'est produire une marque qui constituera une sorte de machine à son tour productrice. Dans la série Sherlock de la BBC, le détective est non seulement celui qui se sert de téléphone portable et d'un laptop, on le verra dans certaines communications à venir, mais ses pensées s'incrustent sur l'image, sur le monde conçu comme un vaste écran, un monde dans lequel l'écriture est devenue machine productrice, pour reprendre Derrida, ayant effacé ses destinataires. Ou alors ce sont les spectateurs eux-mêmes, et non plus les destinataires de la diégèse, l'inspecteur Lestrade, le docteur Watson ou bien Mrs. Hudson. On voit bien comment l'examen du grain du papier holmésien débouche au fond sur deux conceptions de l'écriture. L'une classique émane d'un détective auteur de monographies au même titre que le docteur Watson est l'auteur en abîme des histoires publiées dans le Strand Magazine et que les deux amis commentent à l'occasion comme s'ils pouvaient être à la fois personnage et lecteur de leurs propres aventures. On en trouve un exemple noté par la critique, un exemple assez étonnant, au début de The Valley of Fear, où les personnages, et notamment les inspecteurs de police, disent à Holmes et Watson, attention, nous espérons que vous allez parler correctement de nous dans le futur livre que vous allez écrire, disent les inspecteurs à Watson, ce qui est interprété comme c'est presque pire en délire, c'est-à-dire que les personnages eux-mêmes se demandent quel statut ils vont avoir dans le futur livre à apparaître et à écrire par le docteur Watson. Dans cette conception traditionnelle, donc liée à la signature, les deux amis doivent être conçus comme deux auteurs produisant tour à tour leurs livres, tels des universitaires à l'ancienne, qu'ils pourraient ranger sur leurs étagères. Le professeur Moriarty, on le sait, est également l'auteur d'un traité sur la dynamique de l'astéroïde. L'univers holmésien, tout compte fait très universitaire, produit toute une série de livres, d'encyclopédies, de monographies, de traités, d'annuaires, de guides, etc. C'est un monde où l'on écrit beaucoup, où l'on signe ses livres, où il ne reste plus beaucoup de place sur les étagères. Dans le film Sherlock Holmes and the Secret Weapon, 1943, avec Basil Rathbone et Nigel Bruce, produit par Universal, Holmes se réclamera d'ailleurs de toute une bibliothèque classique qui va de Shakespeare à Poe, justement, pour défendre la culture anglaise contre la barbarie nazie. Les livres deviennent des remparts de culture contre l'invasion de la barbarie. Il me semble que cette bibliothèque correspond à une conception ancienne de la signature. L'autre conception définirait le détective comme s'infiltrant dans un réseau de communication et d'écriture. Le filigrane a été remplacé par la copie, la texture par la toile, le palimpseste par le web. Métaphore sur laquelle il faudrait réfléchir, puisque dans le texte d'Orlien, web désigne la toile au centre de laquelle se tapit à la fois professeur Moriarty et aussi Holmes lui-même décrit alors Moriarty comme une araignée, telle une araignée au centre de la toile, donc dont il contrôlerait les fils de son underworld en quelque sorte, mais Holmes lui-même aussi, puisque thread, web, et ça sont des métaphores holmésiennes qu'il utilise pour définir son raisonnement. Dans The Valley of Fear, il me semble intéressant que le cryptogramme envoyé par le dénommé Paul Locke, dont on nous dit que c'est un nom de plume dans le texte anglais, en français, soit décrit comme simple signe d'identification, a mere identification mark, qui masque de manière définitive l'identité de l'auteur. Là où l'identité était encore possible dans l'ancien monde du roi de Bohême, sans doute voué à la disparition à l'image de l'empire austro-hongrois. Paul Locke et son nom de plume, qui rappelle un écrivain, je pense bien sûr à l'homme de Paul Locke qui aurait interrompu Coleridge dans la rédaction de Kubla Khan. Je crois que le choix de Paul Locke n'est pas un hasard ici. Paul Locke et son nom de plume appartient déjà à ce monde décrit par Derrida, dans lequel on assiste dans lequel l'écriture n'est autre que, je cite, l'espacement comme disruption de la présence dans la marque. Il y aurait donc d'un côté, de mon point de vue, du côté de la théorie des signatures, une sorte de resserrement dans la signature, alors que du côté de l'écriture comme code selon Derrida, il y aurait un espacement de l'écriture. Et c'est là toute la différence, il me semble aussi, entre identité et identification. Fracture qui permet à un internaute de s'identifier sans révéler son identité. Après tout, il a le choix d'utiliser l'adresse Internet qu'il veut, c'est-à-dire de s'avancer aussi masqué que le roi de Bohême. Dans ce monde nouveau pressenti par Doyle, l'écriture conçue comme code secret tend à gommer émetteur et destinataire au profit d'une circulation universelle dans laquelle on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre, et c'est évidemment de notre monde dont il s'agit.